dernière, on n'est pas allé au-delà du 8 octobre, donc on essaiera quand même de pousser un peu plus loin cette année. Une joie aussi d'accueillir donc des nouvelles têtes. On espère qu'elles seront toujours là, la deuxième école de prière. Ça fait sûr. Donc, comment nous procédons? Donc, habituellement, je vous donne le texte à lire pour la fois suivante, pour que vous puissiez déjà le lire chez vous et le méditer, et ensuite on l'explique, on le commente ensemble. Là, comme c'est la première fois, c'est un peu particulier, d'autant qu'on s'est arrêté il y a longtemps, donc on va reprendre tranquillement. Donc, vous le lisez normalement chez vous, on se voit à 20h30, on le lit ensemble, on le commente, on l'explique, je réponds à vos questions pour que vous puissiez repartir, je vais être nourri et questions qui resteront en suspens. Après, nous montons à la chapelle, au deuxième étage, pour nous mettre en présence du Seigneur, pour ne pas que cet évangile soit simplement un exercice intellectuel, mais qu'on puisse rencontrer celui qui nous parle et celui que nous voyons agir. Donc, un petit temps de prière, donc une petite initiation à la lecture, à la prière silencieuse, et on termine donc par un moment convivial pour ceux qui le peuvent au salon. J'ai imprimé un texte qui s'appelle le livre du Seigneur. Est-ce que tout le monde l'a ou pas? Donc on va le lire au début. Donc il est de Madeleine Delbrel et je pense qu'il dit bien ce que nous voulons faire cette année. L'Évangile est le livre de la vie du Seigneur, il est fait pour devenir le livre de notre vie. Il n'est pas fait pour être compris, mais pour être abordé comme un seuil de mystère. Il n'est pas fait pour être lu, mais pour être reçu en nous. Chacune de ses paroles est esprit et vie. Agile et libre, elles n'attendent que l'avidité de notre âme pour fuser en elles. Vivantes, elles sont même comme le levain initial qui attaquera notre pâte et la fera fermenter d'un mode de vie nouveau. Les paroles des livres humains se comprennent et se sous-pèsent. Les paroles de l'Évangile sont subies et supportées. Nous assimilons les paroles des livres. Les paroles de l'Évangile nous pétrissent, nous modifient, nous assimilent pour ainsi dire à elles. Les paroles de l'Évangile sont miraculeuses. Elles ne nous transforment pas parce que nous ne leur demandons pas de nous transformer. Mais dans chaque phrase de Jésus, dans chacun de ces exemples demeure la vertu foudroyante qui guérissait, purifiait, ressuscitait. À la condition d'être vis-à-vis de lui, comme le paralytique ou le centurion, d'agir immédiatement en pleine obéissance. L'Évangile de Jésus a des passages presque totalement mystérieux. Nous ne savons pas comment les passer dans notre vie, mais dans les d'autres qui sont impitoyablement limpides. C'est une fidélité candide à ce que nous comprenons qui nous conduira à comprendre ce qui reste mystérieux. Si nous sommes appelés à simplifier ce qui nous semble compliqué, nous ne sommes en revanche jamais appelés à compliquer ce qui est simple. Quand Jésus nous dit « ne réclame pas ce que tu as prêté » ou « oui, oui, non, non, tout le reste est du malin », il ne nous est demandé que d'obéir et ce ne sont pas les raisonnements qui nous y aideront. Ce qui nous aidera, ce sera de porter, de garder en nous, au chaud de notre foi et de notre espérance, la parole à laquelle nous voulons obéir. Il s'établira entre elle et notre volonté comme un pacte de vie. Quand nous tenons notre évangile dans nos mains, nous devrions penser qu'en lui habite le Verbe qui veut se faire chair en nous, s'emparer de nous, pour que son cœur, greffé sur le nôtre, son esprit branché sur notre esprit, nous recommencions sa vie dans un autre lieu, un autre temps, une autre société humaine. Approfondir l'évangile de cette façon-là, c'est renoncer notre vie pour recevoir une destinée qui n'a pour toute forme que le Christ. Vous pouvez garder la feuille si vous voulez la reprendre et la reméditer chez vous. Alors, grâce à Maria, une élève studieuse s'il en est, nous savons où nous nous étions arrêtés, ce que j'avais oublié. Maria qui fête ses 30 ans de vie en France aujourd'hui. Alors, bon anniversaire. Alors, voilà, on était au verset, alors on a dit 39, mais effectivement, chapitre 15, verset 39.
C'est quelle page?
Alors, c'est page 36, dans le petit livret vert. Alors, ayant pour les personnes qui viennent d'arriver, on commence plutôt à la fin de l'évangile de Saint-Marc, et donc on termine l'évangile de Saint-Marc, je pense sur 2-3 réunions, et ensuite on enchaînera sur l'évangile selon Saint-Jean. Et l'idée étant de finir quand même ce qu'on a commencé, donc voilà, page 36, chapitre 15. Donc on va reprendre un petit peu en amont quand même au verset 29 du chapitre 12. Donc on reprend au verset 29 du chapitre 15. « Les passants l'injuriaient en hochant la tête, il disait, « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. Mais même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « mon Dieu ». Pourquoi m'as-tu abandonné ? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant, attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. On le relire maintenant en silence, chacun pour soi. Pas très étonnant, mais ce passage est centré sur le cri de Jésus et sa mort. On le voit au parallèle qu'il y a dans ce passage, aux moqueries des passants, des scribes et des grands prêtres au début, répond à la fin la profession de foi du centurion. Donc, il y a un premier encadrement avec ces paroles mauvaises d'un côté, de provocation, de non-foi, et de l'autre, paroles de profession de foi. De même, ce centre du passage, avec ce cri de Jésus et sa mort, est entouré par 2 phénomènes extraordinaires qui n'arrivent pas pour la crucifixion d'un condamné commun. Les ténèbres qui couvrent la terre entière à midi, et le rideau du temple qui se déchire. Donc on voit comment voilà, cette scène, elle est balisée, elle est encadrée, d'un côté par les paroles mauvaises, des passants, des scribes, des grands prêtres, paroles bonnes de la profession de foi, et par ces deux phénomènes, l'obscurité, les ténèbres qui couvrent la terre et le rideau qui se déchire. Et au milieu, donc nous avons ce cri de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et le cri de Samuel, le cri par lequel il rend le dernier souffle, et c'est ça que Saint Marc a voulu mettre au milieu. Ce qu'on peut bien comprendre, puisque c'est le moment le plus important avec la résurrection, c'est le sommet de toute l'œuvre de Jésus, le sommet de la rédemption, le sommet de toute notre histoire universelle et personnelle. Ce qui est important aussi dans ce passage, c'est la répétition des verbes voir, observer. Saint Marc nous invite à tourner les yeux de notre esprit, de notre cœur, vers la croix de Jésus. En quelque sorte, il nous invite à prendre place avec le groupe des saintes femmes dont on nous dit qu'elles observaient de loin. Donc, de ne pas rester juste un lecteur, intéressé par un événement du passé, mais de rentrer dans l'évangile. Et de rentrer dans l'évangile, notamment, en prenant place à côté de ces femmes qui ne perdent rien, qui observent, le verbe est fort, c'est juste qu'elles regardent, une intensité de leur regard pour ne rien perdre de ce qui se passe sur le Golgotha. Ces saintes femmes qui sont témoins de la passion par leur regard, comme elles seront aussi témoins de la résurrection lorsqu'elles verront le tombeau vide et qu'elles verront l'ange qui leur annonce que le Christ est ressuscité. Donc, Saint Marc braque le regard de notre cœur, de notre intelligence, sur la croix de Jésus, notamment sur ce double cri, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et le cri dans lequel Jésus remet son esprit et donne sa vie. Mais Saint Marc nous dit aussi d'écouter, parce que ceux qui regardent sont aussi les passants, les scribes, les grands princes qui se moquent et qui, eux, ne regardent pas Jésus comme les saintes femmes, mais qui voudraient voir. Et ils voudraient voir quoi ? Ils voudraient voir un miracle. Ils voudraient être comme au spectacle. Ça nous rappelle Hérode, à qui on amène Jésus quelques heures avant la crucifixion. Et Pilate l'envoie à Hérode, très content de se débarrasser et de savoir que Jésus n'est pas de sa juridiction. Et Hérode, eh bien, aimerait que Jésus, devant lui, fasse un tour, fasse un prodige, fasse un miracle, qu'il puisse avoir quelque chose à raconter. Et les passants, les scribes, les grands prêtres, les moqueurs sont comme ça. Ils voudraient voir un miracle. Ils voudraient être dispensés de croire. Ils voudraient que Jésus, eh bien, s'il est vraiment le Messie, fasse un signe éclatant qui leur permette eh bien, de se dire que peut-être qu'ils avaient tort. Donc, finalement, Saint Marc nous invite à regarder, eh bien, à regarder comme les saintes femmes, pas à regarder comme ses passants. Et là, il oppose, effectivement, le regard curieux, un peu voyeur, un peu avide de spectacle, et l'écoute. Il nous invite aussi à écouter. À écouter comme les saintes femmes, sans doute, écoutent également. Et donc, à écouter quoi ? À écouter le cri de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et ce cri par lequel il expire. Et c'est en entendant ce cri que le centurion pose aussi cet acte de foi. On verra pourquoi. Mais on peut penser à la phrase aussi dans Saint Jean, « Mes brebis écoutent ma voix ». Et effectivement, le centurion, qui au départ est un païen, et qui va poser vraiment un acte de foi, bien, on peut dire qu'à partir de là, il est une brebis de Jésus, parce qu'il a entendu sa voix. Alors, une voix assez particulière, une voix assez inhabituelle, puisqu'elle est cette voix qui pousse un grand cri. Alors, pourquoi on peut dire que c'est inhabituel, et pourquoi sans doute ça a déclenché l'acte de foi du centurion, parce que normalement, un crucifié ne peut pas crier. Un crucifié meurt par asphyxie, lente, normalement, très lente, et donc, ce centurion qui a sans doute pris part et assisté à de nombreuses crucifixions, eh bien, n'a jamais vu un condamné à mort crier comme ça. Et si on ajoute, bien sûr, à cela l'obscurité qui couvre la terre depuis 3 heures, si on ajoute à cela la patience de Jésus, sa bonté jusqu'au bout, si on ajoute à cela la présence de Saint Jean et de Marie, eh bien, tous ces éléments amènent le centurion à poser cet acte de foi. Et vous voyez, Saint Marc, comment il oriente aussi notre attention aux cris et aux paroles de Jésus, eh bien, on peut le voir par le verset 33 et verset 34. Quand arriva la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Donc là, en quelque sorte, on ne peut plus voir. C'est l'obscurité. Il faut surtout entendre. Cette obscurité, Saint Marc ne le dit pas, mais on a l'impression qu'elle va aussi de pair avec un certain silence. Que jusqu'à présent, les passants, les grands prêtres, les scribes faisaient les fiers, parlaient, provoquaient, raillaient, et que tout d'un coup, peut-être, ils sont quand même impressionnés par ces ténèbres. Et en tout cas, Saint Marc, là, ne relate plus de paroles, comme s'il y avait, en même temps que l'obscurité, le silence qui descend sur le Golgotha. Et tout à coup, à la neuvième heure, l'obscurité se fit sur la terre, sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, on pourrait attendre peut-être Jésus expirant, que Saint Marc marque la mort de Jésus par cette heure. Non, ce qu'il veut marquer par cette heure, c'est ce cri. C'est intéressant, c'est-à-dire que la neuvième heure n'est pas associée chez Saint Marc directement à le moment où Jésus meurt, il est associé à ce moment où Jésus parle. Et donc c'est une manière, vous voyez, assez fine pour Saint Marc, de nous dire qu'effectivement, il faut regarder comme les saintes femmes, mais il faut aussi écouter. L'obscurité se fait, le silence se fait, jusqu'à ce que Jésus parle et dise « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que finalement, cette phrase, elle révèle à quel point Jésus nous a aimés. C'est-à-dire, Jésus nous a aimés non seulement jusqu'à donner sa vie pour nous, jusqu'à la mort corporelle, ce qui pour nous est le summum de l'amour, surtout une mort qui arrive après tant de cruauté, tant de trahison, tant de douleur, tant de souffrance. Et il l'a dit lui-même d'ailleurs, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pour nous, hommes, c'est le sommet de l'amour. Mais on peut penser que peut-être pour Jésus, qui est le Fils de Dieu, il y a un sommet encore plus grand et qui lui est absolument propre, qui est justement d'expérimenter en lui, il faut se souvenir qui il est le Fils, il est celui qui est aimé du Père. De toute éternité, son identité, c'est d'être Fils, c'est de se recevoir entièrement de son Père, c'est d'être engendré par le Père, d'être l'objet de son amour éternel. Donc, c'est ça l'identité de Jésus, d'être le Fils. Et là, il expérimente, dans la quasi-totalité de son âme et de son corps, une forme de séparation avec le Père. Pas dans toute son âme, dans le sommet de son âme, il garde cette union au Père, mais dans toutes les parties corporelles, sensibles, toutes les parties inférieures de l'âme, qui concernent tout ce qui est l'ordre de la psychologie et des passions, il expérimente cette séparation et d'une certaine manière cette réprobation du Père à son égard. Et donc c'est sans doute le plus douloureux en fait pour Jésus. Plus que la mort corporelle, plus que l'abandon de ses amis, plus que les trahisons, plus que la cruauté des Romains et des Juifs, plus que son peuple, voilà, qu'il avait préparé pendant des centaines d'années et qui, au moment décisif, lui tourne le dos et le crucifie. Plus encore que ça, c'est « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est pourquoi Saint Marc met cette parole tout spécialement en exergue et veut qu'on entende cette parole. Alors, cette parole, elle dit beaucoup de choses. Elle est le début d'un psaume, vous savez, le psaume 21, qui commence justement dans cette tristesse, dans cet abandon, qui se terminera dans l'action de grâce. Et ce psaume nous décrit plusieurs centaines d'années avant la passion des faits très marquants et très réalistes de la passion. Il y a d'une certaine manière un évangile de la passion avant la lettre, ce psaume 21. Donc il est sûr que Jésus, en disant cette phrase, assume ce psaume et veut nous dire que, voilà, qu'il l'a vécu dans sa passion et que bientôt il arrivera à la louange de la résurrection, qu'il terminera le psaume au matin de Pâques. C'est vrai. C'est vrai aussi que Jésus, par là, veut nous dire qu'il se tient aux côtés de tous ceux qui sont abandonnés, de tous ceux qui sont abandonnés par les hommes, de tous ceux qui, dans l'épreuve et dans la maladie, se sentent abandonnés par Dieu. Mais il nous dit aussi qu'il éprouve lui-même cet abandon. Parce que, nous dira saint Paul, il s'est fait péché pour nous. Il ne s'est pas fait pécheur. Jésus, évidemment, n'a pas commis de péché, mais il s'est fait péché pour nous. Et Dieu le Père ne peut avoir qu'un éloignement, non pas à l'égard du pécheur, évidemment. Dieu le Père est infiniment miséricordieux, mais à l'égard du péché. C'est naturel. C'est comme l'eau et l'huile qui ne se mélangent pas. La sainteté de Dieu ne peut pas se mélanger au péché. Et quand Jésus se fait péché pour nous, c'est-à-dire qu'il assume en notre nom et qu'il répond devant son Père de tous nos péchés en les portant sur lui pour les détruire par son amour infini, et bien il expérimente dans son corps et dans son cœur cet éloignement du Père par rapport à lui. Et c'est sans doute ça le plus douloureux. Et lorsque nous regardons le crucifix, lorsque nous pensons à Jésus, bien remercions-le d'être allé jusque-là pour nous. Non seulement d'avoir donné sa vie, ce qui est déjà immense, qui parmi nous pourrait dire qu'il est sûr de donner sa vie pour ceux qu'il aime, ben Jésus lui l'a fait, mais enfin, il a eu cette suprême douleur et en même temps cette suprême offrande, cette suprême marque d'amour qui lui est propre en tant que fils, eh bien, de sentir en lui cette séparation avec le Père. Ça va ? Alors, cette phrase, elle doit être lue aussi à la lumière du rideau du sanctuaire qui se déchire en deux. Les deux, finalement, doivent être mis en relation, parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, est-ce que Jésus, c'est pas tout simplement un homme qui se sent abandonné de Dieu ? Eh bien, non. Justement, à sa mort, le rideau du sanctuaire se déchire en deux. Donc, le rideau du sanctuaire, c'est le rideau qui séparait deux pièces dans le temple de Jérusalem, le Saint et le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y avait l'Arche d'Alliance, dedans les tables de la loi, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et un petit morceau de manne. Bon, ça, c'est avant l'exil, avant que les Juifs ne cachent l'Arche et ne sachent plus où ils l'avaient mis, jusqu'à ce qu'Indiana Jones la retrouve, mais en tout cas, eux, ils n'ont pas retrouvé. Donc, ils l'ont si bien caché en partant en exil que, revenu, ils n'ont jamais retrouvé. Donc, avant, en tout cas, qu'ils partent en exil, il y a le Saint des Saints et donc cette arche. Et au-dessus de cette arche, deux chérubins, de créatures angéliques inspirées des dieux de Mésopotamie, qui adorent Dieu. Et Dieu, évidemment, n'est représenté par rien. C'est la présence des chérubins qui dit la présence invisible de Dieu au-dessus de son arche, au centre de son temple. Et pour les juifs, il y a vraiment une présence physique, vraiment, de Dieu au milieu de son temple. Et on ne peut rentrer, personne ne peut rentrer dans le Saint des Saints si ce n'est le grand prêtre, une fois par an, pour dire le nom de Dieu et ressortir. Eh bien, ce rideau qui protège, donc, qui couvre, qui sépare la sainteté de Dieu, sa présence des hommes, souvent. Pour dire que en Jésus, que dans sa mort, que dans son cœur ouvert, si saint Marc n'en parle pas, si saint Jean qui en parle, eh bien, Dieu se révèle. Dieu se manifeste, Dieu se livre. Donc, à la fois, Jésus expérimente voilà, cette séparation avec le Père parce qu'il s'est fait pécher pour nous, et en même temps, le Père nous dit que c'est en Jésus, en son Fils, qu'il se donne à nous. Donc les deux passages se complètent l'un l'autre. que vous avez des questions sur ce passage? Vous êtes tous déjà endormis ou sidérés.
Est-ce qu'on peut dire que certains saints donc, qui ont justement expérimenté cette séparation avec Dieu, hein, comme Thérèse d'Enfant Jésus, Mère Thérèse et Thérèse d'Enfant, en fait, c'est un peu aussi la même chose?
Une très bonne remarque, effectivement, parce qu'on pourrait se dire, mais comment c'est possible que Jésus soit au sommet de la joie, parce qu'il a la vision béatifique au sommet de son âme, donc il est infiniment heureux, il l'avait prophétisé, il l'avait dit, hein, le jour où Jésus, où Jérusalem me couronne, est le jour de la joie de mon cœur, donc c'est dans le livre des Chroniques, je crois, donc là, c'est le jour où il est couronné d'épines, c'est aussi le jour de la joie de son cœur, donc il est dans le bonheur parfait d'être dans la communion du Père, et de faire la volonté de Père, et de faire notre salut, donc il est dans une joie débordante, et en même temps, il est dans la souffrance la plus immense, et une souffrance qu'on ne peut même pas imaginer. Et on pourrait dire, mais comment, sans être totalement double et fou, peut-on être au sommet de la joie, et dans la plus grande abîme de souffrance? Et finalement, effectivement, la vie des saints, et beaucoup de saints qui ont expérimenté cela, nous dit, bah, oui, finalement, c'est possible d'être dans cette cohabitation dans notre âme, et effectivement, une Mère Thérèse, une Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, une Sainte Thérèse d'Avila, qui sont à la fois dans le centre de leur âme, dans une paix profonde, vraiment inexpugnable, inaltérable, inaccessible, vraiment cette paix de se savoir aimé de Dieu, et qui est vraiment une conviction qu'il met dans cette joie spirituelle, et en même temps d'être dans la sensibilité, totalement dans l'aridité, dans la sécheresse, voire dans la souffrance. Et souvent, ces saints comprenant qu'ils vivent ça en union avec les pécheurs. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus était très convaincue que finalement, elle expérimentait cette absence de Dieu, d'une certaine manière, dans sa sensibilité, parce qu'elle vivait dans un siècle où Dieu était de plus en plus absent, et où les athées étaient de plus en plus nombreux, de plus en plus forts, et que finalement, elle portait en elle, finalement, la souffrance, plus ou moins consciente, des athées, d'être loin de Dieu. Et pareil, Mère Thérèse, qui aura, l'expérience dans sa sensibilité d'être même rejetée par Dieu, c'est extrêmement fort, on peut penser justement à ce cri de Jésus, et bien pareil, elle aura vraiment la conviction qu'elle vit cela en union avec tous ceux qui sont rejetés par les hommes, et tous ceux justement vers qui le Christ l'envoie tout spécialement, vers ces pauvres, ces lépreux, ces abandonnés, notamment en Inde, puisqu'on considère que c'est leur karma, c'est comme ça, religion bouddhique est assez fataliste, hein, donc c'est comme ça. Hein, ils seront bientôt réincarnés, ça ira peut-être mieux pour eux, mais là, en tout cas, dans cette vie actuelle, s'ils sont sur le bord du trottoir en train d'être mangés par les vers, c'est leur destinée. Et donc, il y a ce côté, ce rejet de ces pauvres, et donc Jésus l'envoie, Mère Thérèse vers eux pour leur dire, évidemment, qu'ils sont aimés de Dieu, en lui disant qu'il a soif. Voilà, qu'elle témoigne de son amour et qu'il a soif de l'amour des pauvres, et en même temps, elle expérimente dans sa vie, pendant quasiment 50 ans, ce sentiment d'être rejetée par Dieu. C'est très très fort, c'est même une épreuve quasi unique, je pense, en tout cas à l'époque contemporaine, que ce soit aussi long et aussi intense. Et donc, ce que les saints nous racontent, et ils le racontent, mais très très simple, qui témoignent comme ça, pas pour écrire des livres, mais souvent dans leur journal intime ou dans une lettre à leur directeur spirituel, qui témoignent finalement qu'en eux, il y a à la fois cette joie et cette souffrance. Il y a cette paix et ce sentiment d'aridité, de sécheresse, d'abandon. Et donc, ça doit aussi nous aider, parce qu'on peut se dire aussi que faut pas attendre d'être dans l'exultation sensible pour se mettre à prier, que parfois, il y a des moments de notre vie où on est dans le désert, mais que Dieu reste présent. Et que Dieu même est, d'une certaine manière, encore plus présent quand on est dans ce désert, dans cette aridité. Juste peut-être un petit mot. Les commentateurs font remarquer que la profession de foi de ce brave centurion n'est pas encore parfaite. Hein. Il ne dit pas vraiment cet homme est le fils de Dieu, il dit vraiment cet homme était fils de Dieu. Donc on peut s'interroger comme sur ce passé, on peut s'interroger sur l'absence d'article, et bon, à sa décharge, on peut se souvenir quand même qu'il était païen 2 heures avant. Bon, il n'a pas eu non plus toute la lecture des prophètes en long, en large et en travers, donc c'est déjà pas mal, et que ça nous dit aussi finalement qu'il faut la lumière de Pâques, et qu'il faut le souffle de la Pentecôte pour parvenir à la plénitude de la foi. Qu'il a une foi imparfaite, encore une fois un peu en germe, mais que s'il persévère, eh bien, sans aucun doute, qu'il ira, voilà, on espère, le jour de la Pentecôte, qu'il se souviendra, voilà, en voyant Saint Jean peut-être parler en sortant du Cénacle, eh bien, voilà, que c'était cet homme qui était là, à côté de cette femme, sur le Golgotha, quand il a dit cet homme était fils de Dieu, et qu'on peut espérer que voilà, sa vie de foi, à ce moment-là, trouvera son plein épanouissement. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les saintes femmes, qui clôturent ce passage. Ils font que c'est difficile d'être misogyne ce soir, quand même, parce que c'est quand même les femmes déjà qui sont les plus nombreuses, et puis en plus... sont les plus courageuses, très clairement, puisqu'elles sont là, alors que les disciples ne sont plus là. Et c'est vrai que souvent, justement, les commentateurs disent que voilà, ces femmes, eh bien, elles ont fait le chemin du disciple jusqu'au bout. Qu'elles sont parties de Galilée, qu'elles sont passées par Jérusalem, qu'elles sont encore là au Golgotha, sous les murs de Jérusalem, et qu'elles poursuivront jusqu'au tombeau, jusqu'à la résurrection. Et donc, elles ont vraiment fait le chemin parfait du disciple. Et quand Saint-Pierre et les apôtres devront trouver un successeur à Judas, ils diront d'ailleurs « Cherchons parmi ceux qui étaient avec nous dès les commencements, dès le baptême par Jean, dès la Galilée, et qui ont été aussi témoins de sa résurrection. » Et donc, ils trouveront peut-être des hommes, mais en tout cas, ces femmes, elles ont fait le chemin intégral. Elles sont même passées par l'étape Golgotha, où Saint-Pierre sans doute n'était pas. Donc, ça peut être aussi pour les saintes femmes de cette auguste assemblée de ce soir, des beaux modèles de prier. Voilà, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie, mère de Jacques le Petit de José, et Sainte Marie-Salomé, de leur apprendre aussi, de vous apprendre à aller voilà, jusqu'au bout, à suivre Jésus, partout où il va.
Parce qu'elle est au pied de la croix, alors que là, elle est au pied de la croix. Mais Marie-Madeleine,
normalement,
elle est au pied de la croix. Alors, bon, là, apparemment, elle est
de loin. Après, on peut penser qu'elle est derrière tout, hein, parce que c'est pareil. Non mais pas la Sainte-Vierge, non, que Marie-Madeleine peut faire des allers-retours entre le groupe de... Parce que vous voyez, par exemple, Salomé, pareil, disparaît au verset 47. Voilà, donc Salomé au verset 47 disparaît. Or Salomé, dans l'évangile de saint Matthieu, elle est présentée comme étant la mère des fils de Zébédée, donc la mère de Saint-Jacques et de Saint-Jean. Donc on peut penser aussi que Salomé, finalement, c'est peut-être des allers-retours entre le groupe des saintes femmes et son fils. Donc on peut penser aussi que Salomé et Madeleine, c'est peut-être des allers-retours pour à la fois soutenir la Sainte Vierge et puis retourner avec ses amis. Bon, je ne sais pas là, dans ces ultimes détails. Après, voilà, pourquoi Saint-Marc ne cite pas la Sainte Vierge, je ne vais pas faire le malin, je n'en sais absolument rien. Ce qui est sûr, c'est que la Sainte Vierge apparaît très tôt dans l'évangile de Saint-Marc, et que peut-être que Saint-Marc a choisi, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, de parler de ces femmes parce qu'elles sont plus proches de nous, peut-être. C'est-à-dire que s'il avait juste dit « il y a la Sainte Vierge au pied de la croix », peut-être que les chrétiens qui entendaient son évangile lorsqu'il l'a prêché ou qu'ils l'ont lu quand il l'a écrit, auraient pu se dire « bon ben ok, il y a juste la Sainte Vierge ». C'est pas notre place, c'est la place des parfaits. Et là, de citer justement une grande pécheresse comme Marie-Madeleine, une anonyme un peu comme Marie, mère de Jacques le Petit et de José, qui était une cousine de la Sainte Vierge, parce qu'on sait que Jésus avait deux cousins qui s'appelaient Jacques et José. José ou Joseph, c'est un peu le même prénom. Et donc Marie-Salomé, mère des apôtres, donc un groupe qui est un petit peu composite. Alors, on peut dire, là, comme on le disait au début, qu'on a peut-être plus de facilité à s'identifier à ce groupe et à se placer à leur côté pour vivre la passion, plutôt que s'il y a eu que la fin de la vie. C'est juste une explication. Donc on termine par un petit passage qui nous amènera jusqu'au tombeau. Déjà il se faisait tard, or comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogeait pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observer l'endroit où on l'avait mis. Donc, Saint Marc nous dit déjà, il faisait tard. Saint Marc a ponctué toute la journée du Vendredi Saint de repères chronologiques. Ça a commencé au petit matin avec le conseil du Sanhédrin qui s'est réuni pour juger Jésus, puis après la 9e heure, enfin la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure, 9h du matin, midi, 3h de l'après-midi, et enfin, voilà, il faisait tard. C'est le dernier repère que nous donne Saint Marc. Alors pourquoi c'est important de savoir qu'il faisait tard? D'une part parce que chez les juifs, on ne laisse pas le corps des condamnés à mort hors du tombeau la nuit. Donc ça c'est dans le Deutéronome, chapitre 21, versets 22-23, je vais y revenir, 21-22-23. Lorsqu'un homme ayant commis une faute passible de mort a été condamné à mort et pendu à un arbre, donc on a signé la crucifixion à cela, on ne laissera pas son cadavre sur l'arbre durant la nuit. Tu devras le mettre au tombeau le jour même, car un pendu est une malédiction de Dieu. Ainsi, tu ne rendras pas impur le sol que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. Donc déjà, voilà, les Juifs n'ont pas coutume de laisser les morts en croix ou sur un arbre pendant la nuit. Donc il est temps de descendre le corps de Jésus pour le mettre dans le tombeau. Ensuite, on est, comme on nous dit, la veille du sabbat. Le sabbat chez les Juifs commence le vendredi soir, à la première étoile, normalement. Alors là, si l'obscurité a couvert toute la terre, je ne sais pas s'ils ont vu beaucoup d'étoiles, mais en tout cas, le sabbat commence le soir. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ça va être le début du sabbat, on ne pourra plus travailler. Or, dépendre le corps de Jésus, le poser, le laver, etc., le mettre dans un atelier, le transporter au tombeau peut être assimilé à un travail. Donc il faut se dépêcher. Et enfin, il y a un jeu, évidemment, que Saint Marc met entre il est tard, la veille du sabbat, Jésus va au tombeau, il fait jour, le lendemain du sabbat, Jésus sort du tombeau. Donc il y a un jeu aussi sur obscurité, lumière, heure tardive, heure matinale, avant le sabbat, après le sabbat. Donc Joseph d'Arimathie va, lui qui est donc, comme nous dit Saint Marc, un homme influent, membre du conseil du Sanhédrin, donc qui est peut-être pas un disciple immédiat de Jésus, mais en tout cas un proche, quand même, qui connaît Jésus, et il a l'audace. Alors pourquoi l'audace? Parce que Pilate vient quand même de condamner Jésus à mort, donc il va quand même se présenter à Pilate comme étant un ami, un proche de Jésus. Donc il a cette audace d'aller lui demander son corps. Pilate s'étonne que Jésus soit déjà mort. Pourquoi ? Parce que la crucifixion, normalement, était longue. Les Romains, qui avaient un art consommé de la crucifixion, pouvaient faire durer le supplice pendant 2 à 3 jours. Donc, enfin, que Jésus soit mort aussi vite, même s'il était fatigué par les coups, par la perte de sang, par l'absence de sommeil et de nourriture, surprend Pilate. Donc, qui demande. En annexe, dans Saint Jean, on voit donc qu'on brise les jambes des deux suppliciés qui étaient de part et d'autre de Jésus, du bon et du mauvais larron, parce que cela avait pour effet d'accélérer la mort. Que les crucifiés ne pouvant plus se tenir sur leurs jambes pour respirer, puisqu'elles étaient brisées, eh bien, ils étaient obligés de s'affaisser, et donc leurs poumons ne pouvaient plus recevoir de l'air, et donc ils mouraient asphyxiés très vite. Alors que sinon, pendant des heures, ils pouvaient se livrer à ce va-et-vient de se relever pour respirer, puis de de retomber, puisque leurs jambes, maintenant, les muscles et les jambes ne peuvent pas tenir en extension, et donc de reprendre un peu de souplesse dans les jambes pour de nouveau respirer, etc. Donc ça pouvait durer des heures, et donc les Romains mettaient un appui au pied pour que les suppliciés puissent faire ça pendant des heures. Et donc là, Pilate est étonné, donc effectivement, qu'il soit déjà mort. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps, là c'est hyper mal traduit malheureusement, sur le rapport du centurion, il offrit à Joseph le corps. C'est un mot qui n'est qu'une fois dans l'évangile, et qui dit vraiment le fait, normalement en grec, de faire un cadeau, de faire une offrande. Donc, Pilate offre le corps à Joseph. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir derrière cela, assez rapidement? D'une part, le fait que sans doute Pilate n'est pas très à l'aise avec cette condamnation, qu'il a mauvaise conscience. On le sait, il pensait que Jésus était innocent, profondément. Et normalement, voilà, un Romain offre le corps des suppliciés aux bêtes, aux vautours, ou le jette dans une fosse commune. Très rare que, comme ça, un supplicié puisse avoir droit à un tombeau en bonne et due forme. Et donc le fait que Pilate accède à cette demande montre sans doute sa mauvaise conscience par rapport à Jésus. Et puis, évidemment, on va offrir le corps, c'est évidemment très fort de sens, puisque Jésus lui-même s'est offert pour nous, et qu'il s'offre pour nous à la messe. Bon, alors, je ne sais pas, des assignations entre Pilate et les prêtres, qui serait pas très bienvenue, mais... Voilà, en tout cas, il y a cette dimension d'offrande. Alors Joseph acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc, puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Donc, description des rites funéraires communs aux Juifs, à l'exception d'une étape qui manque, laquelle ? L'embaumement. L'onction qui n'a pas lieu, à la fois parce que le temps presse, et puis parce que Jésus a déjà reçu sa fonction à Béthanie. Vous savez, il avait dit voilà, que cette femme, voilà, il ne faut pas la blâmer, au contraire, il faut la louer, parce que ce qu'elle a fait, elle l'a vu en vue de mon embaumement, en vue de mon ensevelissement. Donc Jésus avait prophétisé que, effectivement, qu'il ne serait pas embaumé, et que Sainte Marie-Madeleine, Marie, sœur de Marthe, procéderait déjà par anticipation à cet embaumement par l'onction de Béthanie. Et dernière petite chose, avant que je réponde à une question que nous montions à la chapelle. Ceux qui étaient là il y a quelques années, quand on a commencé l'évangile de Saint-Marc, se souviennent-ils peut-être que dans le jardin des Oliviers, il y avait un jeune homme qui était nu, simplement enroulé dans un drap, et qui avait suivi les apôtres jusqu'à Gethsémanie, et les soldats romains, lorsqu'ils viennent arrêter le Christ, souhaitent mettre la main sur lui, et lui s'enfuit, sort du drap, et s'enfuit donc tout nu. Donc on peut penser que c'est simplement la signature de Saint Marc, qui est ce jeune homme, et qui se met très discrètement en scène, qui ne donne pas son nom, mais que c'est lui qui... Si on part du principe que Jésus a célébré la scène dans la maison des parents de Saint-Marc, on peut imaginer effectivement que qu'il est descendu, qu'il ait suivi les apôtres et qu'ils se sont enfuis tous. Mais il y a aussi, de manière un peu plus symbolique, vous en faites ce que vous voulez, si ça ne vous inspire pas, ça ne vous inspire pas, il y a aussi une forme de symbole, puisque la passion commence avec ce jeune homme qui s'enfuit face aux soldats et qui sort de son bras, et elle se termine par Jésus, qui lui a fait face aux soldats, qui ne s'est pas enfui, qui est allé jusqu'au bout de son offrande, et qui rentre dans le drap. Parce que c'est le même mot en grec qui dit linceul et qui dit drap. Alors, dans l'évangile en français, comme d'un côté il y a drap, de l'autre il y a linceul, ça ne saute pas ni aux yeux ni aux oreilles, mais pour les lecteurs grecs qui avaient cette chance, ils pouvaient voir que ça commençait par ce jeune homme qui sort de son drap en s'enfuyant face aux Romains, ça se termine par Jésus qui rentre dans son drap parce que lui ne s'est pas enfui face aux Romains. Et on peut prolonger un peu l'image en disant qu'évidemment, le jour de Pâques, Jésus sortira de nouveau du drap et qu'un jeune homme se tiendra devant le tombeau pour annoncer aux femmes que Jésus est ressuscité. Donc il y a ce jeu aussi que met en place Saint Marc sur à la fois le jeune homme et le drap, et Jésus qui, lui, ne s'enfuit pas. Donc, parallèle inversé, en quelque sorte, entre Saint Marc et Jésus, l'un qui s'enfuit, l'autre qui est fidèle, l'un qui sort de son drap, l'autre qui rentre. Et puis, voilà, ce jeune homme qui s'enfuit, qui laisse derrière son drap, et le matin de Pâques, ce jeune homme qui se tient à côté du drap que Jésus a laissé pour ressusciter. Donc, c'est un beau parallèle. Hein. Est-ce que vous avez des questions ?
Une question pour revenir sur les 20 femmes. Des fois, on parle de Marie-Thalie ou Marie-Jacobie. Là, c'est encore une Marie-Jacobie, ce n'est pas la même que Marie, mère de Jacques, et fille de Joseph.
Alors, je pense que Marie-Jacobée, c'est Maria Jacobéi, c'est-à-dire Marie de Jacques. Et donc, on intègre Marie, mère de Jacques. Le mot de mère n'est pas forcément présent. Donc, mais elle peut difficilement être la femme de Jacques et de José, donc elle a une vie un peu sulfureuse, quand même. Donc, comme il y a marqué Marie de Jacques et de José, on rajoute mère. Et donc, Marie Jacobée, c'est Marie, mère de Jacques. C'est un homme. Autre question ? Très bien, et la première fois que nous sommes à l'heure, nous allons monter, faire oraison.